Tribu d'amour, c'est l'histoire de mon aventure. Mon aventure vers l'inconnu, mes rencontres avec des êtres d'amour, ouverts, qui aiment toujours ce qu'ils font, car quel que soit leur métier ou leur œuvre ou le nom qu'ils leur donnent, ce qu'ils font avec leurs mains ou avec leur cœur contribue à leur joie au quotidien. Alors je vous emmène en voyage, au bout de la rue ou au bout du monde, parce que les rencontres sont de merveilleux voyages que j'ai à cœur de vous partager. Bon voyage! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de Lucille Paille. Lucille ne manque ni de pétillance, ni d'astuces, vous allez l'entendre. Elle est conseillère en images et en personal branding et c'est une vraie invitation au voyage vers soi-même qu'elle nous propose.
Bonjour Lucille Paille.
Bonjour.
Ça va et toi?
Ça va super.
Je suis super contente qu'on se retrouve. Alors toi, il fait combien? Moins 3, moins 4 dehors?
Oui, je sais pas.
T'as les mains sur un chocolat chaud réconfortant.
C'est ça, parce que j'ai les doigts gelés.
Et on est venu parler de la couleur et de l'image.
C'est toi qui me dis ça? Je te suis. De quoi on est venu parler? Je ne sais pas.
Tu es bien conseillère en image.
Tout à fait.
Donc écoute, je vais essayer quand même de te parler de toi, de te faire parler de toi pour qu'on puisse te découvrir.
Avec plaisir.
Et qu'on puisse te rencontrer par tes mots et ton art.
Avec plaisir. Alors moi c'est Lucie, j'ai 32 ans, je suis conseillère en images et en personal branding. Ouais. Ça veut dire que mon métier c'est d'accompagner les femmes, les hommes mais aussi les personnes non binaires qui ne savent pas comment se mettre en valeur forcément. Ouais. Et donc je leur apprends à se mettre en valeur grâce à leur style vestimentaire. Grâce à la manière avec laquelle aussi ils vont s'exprimer à l'oral, que ce soit dans le discours verbal ou dans leur communication non verbale, tu sais, tout ce qu'on appelle le body language, la manière dont notre corps bouge, etc. Et je les accompagne aussi sur comment se mettre en valeur sur leurs réseaux sociaux professionnels.
D'accord.
Parce que voilà, aujourd'hui, quand on veut faire carrière, il faut travailler son e-réputation aussi. Ouais, ouais. Pas que sa réputation, il faut aussi travailler la réputation qu'on a sur Internet. Et ça, les gens sont très, très frileux, très, très timides à l'idée de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà tout ce que je fais.
Bah déjà, j'allais te poser une question. Qu'est-ce que l'image?
Qu'est-ce que l'image? Eh bien, l'image, c'est tout ce qui... Comment expliquer ça? C'est tout ce qui nous représente, c'est notre apparence extérieure. En fait, oui, je pense qu'on peut, en termes de synonyme, on peut définir l'image comme étant notre apparence extérieure. Et notre apparence extérieure, elle repose sur trois piliers. Il y a déjà, d'une part, juste notre apparence vestimentaire. Parce que dans le discours, tu sais, quand on arrive dans une situation sociale, on est d'abord vu avant d'être entendu, avant d'être compris. C'est-à-dire que quand on se forge une opinion sur la personne, c'est humain, il ne faut pas juger les gens, mais en fait, au premier coup d'œil, on se fait une opinion.
On perçoit.
On perçoit quelque chose et on s'imagine des choses sur cette personne par rapport à ce dont elle porte, par rapport à sa coupe de cheveux, son maquillage, la manière dont elle bouge aussi, l'énergie qu'elle dégage. Donc ça, c'est le premier pilier de l'image. Puis après, cette image, elle peut être renforcée par, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la manière avec laquelle on bouge. Donc tout ce qu'on appelle notre communication non-verbale, les gestes qu'on fait de notre corps, qui peuvent nous trahir parfois quand on a du stress ou pas.
C'est vrai.
Ou au contraire, nous donner beaucoup plus de charisme. Bref, ça dépend des gens. Et puis aussi, tout simplement, le discours. Ce qu'on choisit de dire, les mots qu'on emploie, tout ça, ça participe de notre image, du coup.
Alors du coup, quand quelqu'un vient te voir, tu commences par quoi?
Quand quelqu'un vient me voir, je commence par quoi? Par un entretien. En fait, je commence par un entretien parce que chaque personne a des problématiques différentes, a des complexes différents, des points de vulnérabilité différents. Et donc, je commence toujours par un entretien découvert d'une heure et demie, dans laquelle j'ai beaucoup de questions à poser, où en général, les gens me disent « Ah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une thérapie !» Donc, loin d'être une thérapie, j'ai beaucoup de questions à poser pour en fait comprendre les gens, qui ils sont, d'où ils viennent, quel est leur vécu, leur passé, pourquoi ils font appel à moi aujourd'hui, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie, quels sont leurs désirs les plus profonds, quels sont leurs désirs inavoués aussi, parce que des fois, c'est pas toujours facile d'oser se dire qu'on a tel complexe et qu'on rêverait, par exemple, de rentrer dans une pièce et que tout le monde nous remarque. Enfin, ça, c'est quelque chose, par exemple, ça peut être un désir, mais que souvent, les gens n'osent pas l'avouer, parce que c'est mal, pas forcément bien vu dans la société de vouloir se mettre en avant, par exemple. Donc voilà, je commence toujours par un entretien, et ensuite, en fonction justement de ce que la personne me donne, je mets en place un parcours d'accompagnement personnalisé. Parce que telle personne va par exemple être très à l'aise avec le fait de s'exprimer à l'oral et elle n'aura pas du tout besoin que je l'accompagne sur cet aspect-là. Par contre, elle sera très insécure par rapport à ses choix vestimentaires, par exemple, sur comment la mettre en valeur. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes, la prise de parole en public, c'est quelque chose qui les angoisse, qui les mortifie. Ils sont pétrifiés sur place, comme dans Harry Potter, là, quand on jette un sort. Et donc là, ils vont plus avoir besoin de moi, alors que pour eux, par exemple...
Lucide, alors.
Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'essaye de les accompagner du mieux que je peux en fonction de leurs besoins.
C'est chouette, ça.
Bah, merci.
Mais non, non, alors tu es un vrai bonbon vitaminé. Hein,
C'est la première fois qu'on me dit ça, c'est gentil. C'est plutôt moi qui devrais te dire ça par rapport à ta tenue, tout en mauve et vert et rose poudrée.
Oui, mais toi, tu as... Alors, je vais quand même décrire les ravissantes boots pailletées. Bleu pétrole, c'est quoi ? C'est une.
Elles sont magnifiques.
Ah non, elles sont sublimes. Je mettrai une petite photo. Je pense qu'effectivement le détail qui vient montrer une facette de personnalité, parce que toi, quand on regarde tes chaussures, on se dit elle est audacieuse.
Oui, oui.
Mais quand on regarde tes boucles d'oreilles aussi, on se dit Lucille et aime les belles choses, les petits détails qui sont élégants et très singulier.
Belle chose, je ne sais pas, parce que quand j'ai reçu ces bottes-là, ma mère et mon copain se sont tapés un fou rire tellement ils ont trouvé ça moche et affreux. Et ils se sont dit, Lucille se transforme en clou, donc la beauté est subjective, donc beau, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime les choses originales qui sortent de l'ordinaire.
Ouais, c'est ça, t'es originale.
Oui,
oui. Elle te plaît, c'est le principal.
Oui, c'est le principal.
Un des piliers, non, aussi, de l'image.
Dans les
sentir bien.
Oui, en tout cas, dans mon accompagnement, oui, parce que d'un conseiller ou d'une conseillère en image à une autre, ça peut varier. Moi, mon principe, c'est que je ne suis pas là pour former des mini-mois. Je ne suis pas une influenceuse. Je ne suis pas là pour faire adopter mon style vestimentaire à mes clients et qu'ils me ressemblent. Pas du tout. Je suis là vraiment pour les aider, eux, à trouver le style vestimentaire qui leur correspond, qui les valorise. Et donc, si par exemple, voilà, moi j'ai une personnalité haute en couleur où j'aime les choses très originales et très éclectiques, mais j'ai déjà accompagné des personnes qui me demandent très classiques, voilà, qui veulent s'habiller que dans des tons qu'on appelle classiques comme le bleu marine, le blanc, le beige, le noir, le gris, enfin voilà, qui veulent ce style chic de la parisienne. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et qui, moi, c'est pas du tout un style qui me correspond, mais ça tombe bien parce que c'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner les gens vers un style qui leur correspond.
Donc, les mettre en lumière. Donc.
Exactement, exactement. Les paillettes, ça aide, mais je comprends que tout le monde n'aime pas les paillettes.
C'est sûr. Mais il y a des gens qui aiment les paillettes, la lumière pailletée, et d'autres, la lumière plus douce.
Plus diffuse, voilà, plus discrète.
C'est quand même de la lumière.
Exactement, exactement. Chacun a sa propre manière de se mettre en lumière.
Alors, je me souviens que quand je t'ai rencontrée, parce que je t'ai rencontrée, tu faisais un concours de storytelling et tu as gagné ce concours avec brio, je veux dire.
C'est gentil.
Si, c'était vraiment sympa. C'était sympa. Tu as montré une facette de toi très lumineuse, justement, vitaminée. C'est pour ça que je garde ces souvenirs de toi, qui est que tu es... Tu aimes jouer, j'ai l'impression.
Hein ? Écoute, c'est la première fois qu'on me dit ça, j'y avais jamais réfléchi. La petite anecdote, c'est que quand j'étais petite, de mes 6 à mes 10 ans, j'ai fait du théâtre et que j'étais hyper timide à l'époque. Et ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête où je me dis « Ah, je referais bien un petit one-woman show ou un truc dans le genre.
» C'est un peu ce que tu nous as fait le jour du storytelling, le jour du concours.
Ouais, bah tu vois, j'avais super peur. En plus, je me suis inscrite à ce concours complètement en touriste. J'ai reçu une newsletter, je ne sais pas pourquoi, pour une fois je l'ai lue et j'ai vu qu'il y avait ce concours. Et je me suis dit « Tiens, soyons fous, inscrivons-nous. »
Et puis t'as eu raison, parce que tu vois, ça t'a donné raison.
Oui. Mais une heure avant de venir, je me cherchais 10 000 excuses pour ne pas venir et pour je me disais, ça sert à rien, ça va rien m'apporter, je vais juste me taper les transports.
Les cadeaux de la vie, finalement.
C'est ça. Et en fait, belle surprise, j'ai bien fait d'affronter ma peur et mon angoisse parce que.
Ça fait de traverser sa peur.
Oui, parce que tu vois, moi j'accompagne mes clientes notamment sur la prise de parole en public, mais ça ne veut pas dire que moi-même je ne suis pas soumise à mes propres angoisses par rapport à ce sujet. Et je me suis dit, bah tiens, je vais y aller, ne serait-ce que pour voir qu'est-ce que je vaux. Quitte à accompagner mes clientes là-dedans. Et j'en suis ressortie complètement énergisée parce que j'y suis allée sans rien attendre. Vraiment, disons juste pour le fun.
Ça a été une récompense de ton travail, en fait.
Bah, de travail, je sais pas, parce que j'ai pas trop travaillé ni préparé.
Non, mais pas forcément de travail de storytelling, mais je veux dire qu'il arrive peut-être un moment aussi où, quand on, justement, on se positionne comme quelqu'un qui aide... qui accompagne l'autre, le fait d'être dans une co-création, ça nous accompagne toujours aussi.
Oui,
donc,
complètement.
Ça prouve aussi que ton travail est sincère et authentique puisque tu as joué le jeu pour toi-même.
Oui, 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 je pense que oui. Je peux pas. Je n'ai rien à ajouter. Tu as ajouté, tu l'as très bien résumé. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est important, je trouve, de. Aujourd'hui, il y a tellement. On est nombreuses et nombreux à s'improviser, coach de ceci, accompagnant de cela, etc. Et je trouve ça normal. En tout cas, pour moi, c'est important, à mon sens, de. À un moment donné, de se confronter soi-même à qu'est-ce qu'on vaut. Parce que si on vend nos services à des personnes qui sont prêtes à investir une certaine somme pour se faire accompagner, on ne peut pas le faire juste parce qu'on s'auto-nomme coach, tu vois, voilà. Mais je trouve ça bien de vérifier qu'est-ce qu'on vaut de temps en temps.
Ouais, voilà. Bien sûr. Vérifier de toute façon, la vie, c'est un chemin et il y a des pas pour avancer.
Exactement.
Et donc, on avance. Alors, justement, pour parler de ça, comment on devient coach en image?
Comment on devient coach en image? Eh bien, j'ai envie de dire que ça dépend des personnes. Moi, j'ai d'abord été conseillère en image amateur et bénévole pendant 7 ans au sein d'une association qui s'appelle La Cravate Solidaire. C'est une association d'aide à la réinsertion professionnelle qui a pour mission en fait, de lutter contre les discriminations liées au physique, notamment au moment de l'embauche. Parce que, bah, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première impression, on est jugé en fonction de la première impression qu'on dégage. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément les ressources économiques ni culturelles pour faire cette bonne première impression attendue en entretien d'embauche. Et cette association-là, en fait, ils font un double travail qui est génial. C'est que, d'une part, ils récupèrent les vêtements dont on ne veut plus. Donc, ils ont toute une action de recyclage des vêtements.
Ah, génial.
Où on peut leur donner, que ce soit vous en tant que particulier ou même si vous voulez organiser une collecte au sein de votre entreprise ou si, par exemple, c'est une marque de vêtements qui veut défaire ses stocks, etc. Donc, ils récupèrent tous les vêtements dits de bureau. C'est-à-dire qu'on pourrait porter dans un bureau classique et dont on ne veut plus.
Qui pourrait être utilisé justement par ces êtres que tu vas accompagner.
C'est ça. Et en fait, après, ils travaillent avec d'autres associations d'aide à la réinsertion professionnelle qui ramènent leurs bénéficiaires dans le showroom de l'association. Et là, ils ont un temps pendant une heure avec un conseiller ou une conseillère en image bénévole qui leur trouve une tenue parmi tout le stock disponible qui leur correspond, qui correspond au milieu professionnel dans lequel ils vont être amenés à travailler.
Mais on leur laisse après.
Et on leur laisse. Et ouais, c'est cadeau. C'est donc les vêtements sont recyclés parce que du coup ça va à une personne qui en a vraiment besoin.
C'est génial.
Pour son entretien d'embauche, pour qu'elle se sente confiante, qu'elle se sente valorisée. Voilà. Et donc moi je fais ça depuis 2015.
Ouais.
Je suis bénévole dans cette association, toujours encore aujourd'hui.
Ah, c'est super.
Et c'est comme ça que j'ai découvert le conseil en images.
D'accord. Et comment tu as atterri dans cette association à la base?
Alors, totalement par hasard.
Si je peux te poser cette question.
Ouais, bien sûr, c'est très personnel, mais j'ai aucun problème à en parler. Moi, je travaillais, j'avais 25 ans, j'étais dans mon premier travail et ça se passait très mal. J'étais en train de faire un burn-out parce que, notamment avec la nouvelle hiérarchie qui était en place, j'ai subi 2 ans de harcèlement moral dans ma toute première boîte en tant que jeune active. Et ça se passait très mal, je dépérissais. Et ma belle-mère, donc la femme de mon papa, un jour m'envoie un post sur LinkedIn, donc tu vois c'est complètement tiré par les cheveux, et c'est comme quoi les hasards de la vie, c'est
la vie quand elle veut te passer un message, elle trouve le chemin, hein.
Ouais, c'est ça. Et elle m'envoie un post LinkedIn de La Cravate Solidaire, c'est le nom de l'association. Elle me tag dessus, elle me dit: ah mais c'est trop fait pour toi. Alors moi, génial. Je regarde ça, puis je vois qu'il y a une réunion d'information pour devenir bénévole. Moi, ça me faisait un petit temps que ça me trottait dans la tête depuis que je travaillais d'être bénévole quelque part, d'avoir un engagement associatif. Et quand j'ai regardé, je suis allée à la réunion d'information et là, ça a été une révélation.
En fait, je me suis à ma place.
Ouais. Mais vraiment, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, où j'ai première fois de ma vie que j'ai eu le sentiment que toutes les planètes étaient alignées et que je suis ressortie de là en me disant: mais si j'ai bien une mission sur cette terre,
c'est celle-là.
Parce que j'avais toujours été passionnée et fascinée par la mode, les vêtements. J'adorais Nouveau Look pour une nouvelle vie. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission avec Christina Cordula à la télé. Oui, ça date, oui, ça ne nous rajeunit pas.
Surtout moi.
C'est pareil. Ça ne nous rajeunit pas. Et j'adorais cette émission, mais quelque part, ça avait quand même un côté très superficiel.
Ouais,
et moi, je ne savais pas comment trouver un métier où tu peux concilier ton amour de la mode, des vêtements, avec quelque chose d'utile,
qui a un sens,
voilà, quelque chose qui a du sens, qui est pas du superficiel, qui est pas dans le paraître, etc. Et là, tout d'un coup, c'était comme si tout.
Ouais, tu as trouvé le fil conducteur.
C'est ça, tout s'alignait. Donc je me suis dit, je suis faite pour faire ça, et donc je me suis engagée et j'y allais une fois par mois, une après-midi par mois. Puis bah, tu vois, il m'a fallu 7 ans pour passer à l'action et me dire « Et si j'en faisais mon métier à part entière ?»
Ouais. Mais comme quoi, je crois qu'on a beau dire, on a beau être accompagné, on a beau parler de coaching, malgré tout, c'est un process, la vie.
Oui.
Donc, il faut le temps d'intégrer des process et puis d'y réfléchir, que ça infuse.
Oui.
Et puis voilà, puis un jour il y a un tour de clé et on est la clé et on se dit bah voilà, c'est bon.
Non mais c'est ça, il faut que les choses cheminent et rien n'arrive par hasard.
Ouais.
Parce que si j'avais pas eu toutes les années qui ont suivi après dans mes expériences professionnelles dans le monde du salariat, j'en serais pas arrivée à mon positionnement actuel aujourd'hui et qui pourtant est un positionnement, je pense, qui m'est intrinsèque et qui est très très fort. Donc il y a pas de hasard, rien n'arrive par hasard.
Non, mais encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, d'abord, il y a une conjonction de planètes, ça c'est sûr, mais il y a aussi une volonté d'arriver à trouver la chose qui te correspond, ou en tout cas à refuser la chose qui ne te correspond plus. À accepter de voir que tu n'es pas heureux quelque part, et que y a un déclic à avoir pour changer de direction.
Ça, ouais, je ne sais pas si toi, j'imagine que tu dois le voir pas mal avec tous les invités que tu invites à ton micro. Mais je trouve que ça, s'autoriser à refuser les choses qui ne nous correspondent pas,
bah c'est un chemin,
tellement difficile. Enfin,
c'est le chemin d'une vie. Hein.
Mais tout le monde. Enfin, moi, toutes mes clientes et mes clients, parce que je n'ai pas que des clientes, j'ai aussi des clients, viennent me voir parce qu'ils ne s'autorisent pas à dire non à plein de choses.
C'est ça. Mais comme quoi, après, le chemin d'une vie, c'est de trouver son axe et de pouvoir le partager pour justement aider les autres. Donc, c'est aussi un chemin.
Ouais.
Et ça fait partie du chemin, sinon ça serait trop facile, cette incarnation.
Oui, non, complètement.
Et puis justement, ça pourrait pas non plus mettre en lumière les êtres comme toi qui sont là pour accompagner l'autre. Il faut qu'il y ait cette problématique qui se pose quelque part, sinon ça ne donnerait pas une raison d'être à qui tu es.
Oui, non, mais exactement. Moi, aujourd'hui, si je suis conseillère en image et que j'ai envie d'accompagner les gens pour leur apprendre à se mettre en valeur, et notamment leur apprendre à se mettre en valeur dans leur environnement professionnel, c'est parce que moi-même, j'ai cheminé sur ce sujet dans mes expériences professionnelles passées, que j'ai vécu des frustrations, des problématiques, que j'ai travaillé dessus, que ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent aussi, beaucoup. Et je me suis dit, mais attends, si je peux permettre à d'autres personnes de gagner ce temps-là, en leur faisant bénéficier de moi ce que j'ai appris, de mes propres erreurs, mes propres échecs, les enseignements que j'en ai tirés et comment j'ai réussi à sublimer et à transcender ça, bah, si je peux faire prendre un petit raccourci aux personnes que j'accompagne, bah, c'est tout bénef, quoi.
Ouais. Donc, alors moi, le podcast, tu sais, il s'appelle Tribu d'amour.
Oui.
Parce que c'est ça, l'amour.
C'est-à-dire ?
C'est une facette de l'amour que donner de l'amour aux gens, c'est-à-dire donner de l'énergie. L'énergie de bienveillance, l'énergie d'accompagnement. Bien sûr, il y a l'amour amoureux, mais ce n'est pas celui dont on parle à l'instant. C'est plutôt cet amour du
prochain, quelque part.
Oui, c'est ça, cet amour de l'autre.
Ouais.
L'amour le fait de se dire qu'on est dans un monde où, pour soi-même, être heureux, c'est tellement extraordinaire et c'est tellement euphorisant que quand on peut être un petit grain de sable sur un chemin pour pouvoir aider l'autre à en bénéficier, c'est chouette.
Ouais. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai rien ajouté à ça.
Alors donc, tu es conseillère. Alors, je me souviens aussi, ça c'est en allant visiter ton site, je crois, que j'ai vu que tu travaillais avec justement la couleur.
Oui.
Et alors, on va parler d'autres thématiques sur ton choix, ouais, pour accompagner l'autre. Mais moi qui suis une coloriste et qui suis fascinée par les couleurs, je voudrais que tu nous en parles parce que je trouve que c'est... Qu'est-ce que ça change chez quelqu'un, ce travail que tu effectues sur lui ou sur elle?
Ah, c'est super ta question. Et je pense qu'en tant que coloriste, à mon avis, tu dois en savoir beaucoup plus sur la couleur que moi.
Non, mais je pense que... Alors, pour revenir à quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, je pense que la vie, c'est un chemin et que parfois, on apprend des choses et parfois, on fait aussi des choses très intuitivement, comme tu nous l'as dit aussi. Et il y a des choses qui sont dans nous et qui sont en nous, qui sont intrinsèques, comme toi, tu t'es rencontrée. Moi, je sais que je suis coloriste et je sais ce que la couleur provoque chez les gens. Mais justement, j'aurais aimé entendre ta façon. Après, je te répondrai si tu veux de mon point de vue. Mais qu'est-ce que ça apporte, ces palettes de couleurs, sur quelqu'un?
Alors, C'est vrai que la première prestation que je vends, celle que je vends le plus et que les gens me demandent le plus, c'est la colorimétrie. La colorimétrie, c'est la discipline qui permet de savoir quelles sont les couleurs qui nous vont bien au teint. C'est-à-dire quelles sont les couleurs qui nous donnent un effet bonne mine naturellement. Parce qu'en fonction de la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux et la couleur de nos cheveux, ce ne sont pas toutes les mêmes couleurs qui nous vont bien au visage. Et alors souvent les gens disent « Ah oui, moi le rouge ça ne va pas, ah moi le jaune ça me va trop bien ». Mais en fait, oui mais non, ce n'est pas ça. Parce qu'on peut toutes et tous porter toutes les couleurs.
C'est juste que
voilà, il y a des nuances en fonction de est-ce que ce sont plutôt les couleurs chaudes ou les couleurs froides qui nous vont bien au visage. Donc les couleurs chaudes, je te l'apprends pas à toi, mais je vais l'expliquer à ton audience, à ton auditoire. Les couleurs chaudes, ce sont celles qui ont davantage de pigments jaunes à l'intérieur, alors que les couleurs froides sont celles qui ont davantage de pigments bleus. Donc ça, c'est la première caractéristique, la température des couleurs. La deuxième caractéristique, on essaye de savoir si ce sont plutôt les couleurs claires ou foncées qui nous donnent cet effet bonne mine au naturel. Donc bah, couleur claire foncée, c'est pas compliqué. Vous prenez une couleur de base, vous rajoutez du blanc dedans, ça devient une couleur claire, vous rajoutez du noir dedans, ça devient une couleur foncée, je caricature. Et la troisième et dernière caractéristique, c'est savoir si ce sont les couleurs intenses ou atténuées qui nous vont bien au visage. Donc les couleurs intenses, ça va être toutes les couleurs vives, flashy, le rose fuchsia, enfin toutes les couleurs qui pètent. Et les couleurs atténuées, c'est tout l'inverse. C'est toutes les couleurs qui sont sourdes, qui sont diffuses, où on n'arrive pas trop à savoir si c'est du rouge ou si c'est du orange, c'est une couleur d'entre-deux, enfin c'est un peu toutes ces couleurs-là. Et donc on essaye de savoir, en fonction de ces trois caractéristiques, en fonction de la couleur de nos yeux, notre peau, nos cheveux, savoir qu'est-ce qui nous donne cet effet de bonne mine. Et en soi, ça change rien à notre vie. C'est-à-dire que les gens sont fascinés par la colorimétrie, mais c'est pas non plus le truc révolutionnaire. Par contre, là où ça fait une différence, c'est voilà, je dis toujours ça à mes clientes. On est le matin, j'ai pas entendu mon réveil, je me lève, je suis en retard, j'ai pas le temps de me maquiller, j'ai la tête fatiguée, j'ai des cernes qui me descendent jusqu'aux oreilles. Quel est le pull que j'attrape comme ça là, à l'arrache tout de suite en vitesse pour essayer de limiter les dégâts? Tant qu'à faire, si c'est un pull qui est dans notre colorimétrie, ça va avoir tendance à atténuer nos cernes, les petites veines bleutées qu'on peut voir par transparence de la peau, les zones d'ombre du visage, etc. Ça va atténuer tout ça et donc du coup ça va nous donner un effet bonne mine naturel comme si on s'était un petit peu maquillé. Alors que si à l'inverse, je choisis le pull qui est à l'opposé de ma colorimétrie, ça va creuser les marques de fatigue du visage et c'est ça qui fait que des fois ça nous arrive dans notre quotidien qu'on met quelque chose et les gens...
Ternis, ou...
Voilà, on se regarde dans le miroir, on se dit ah non mais je sais pas pourquoi mais sur moi c'est dégueulasse. Enfin vraiment, c'est... on se dit
pas,
c'est pas possible. Et à l'inverse, des fois on va mettre des tenues et on sait pas pourquoi tout le monde nous complimente ce jour-là parce qu'on a en nous disant ah mais qu'est-ce que t'as fait, t'as changé quelque chose à ton maquillage, à tes cheveux, mais et en fait les gens savent pas trop quoi mettre le mot dessus et souvent c'est parce qu'on est pile dans notre colorimétrie. Donc c'est à ça que ça sert la colorimétrie, c'est comment se mettre en valeur finalement avec trois fois rien, juste en portant la bonne couleur près de nos visages pour mettre en avant nos atouts et à l'inverse atténuer tout ce qu'on a envie d'atténuer en général, qui sont les cernes, les petites veines bleutées, les zones d'ombre, si on a des petits boutons, des petites rougeurs, enfin tout ce genre de choses.
Donc, mais l'harmonie
Oui, c'est ça. C'est comment mettre en lumière en fait le visage tout simplement. Et donc ça, c'est la première partie de la colorimétrie. Donc c'est comment nous donner cet effet bonne mine. Et après, je fais aussi un travail sur quelles sont les harmonies de couleurs justement qu'on peut porter dans nos tenues. Donc comment on peut associer les couleurs entre elles, parce que les gens ne savent pas. Mais il y a différentes manières d'associer les couleurs. Et en fonction des types d'associations qu'on choisit, ça véhicule pas, ça renvoie pas le même message. Et ça véhicule pas la même image. Et donc c'est là que l'entretien découverte dont je te parlais tout à l'heure d'une heure et demie, et après j'en fais plein d'autres encore plus poussés sur chaque sujet, pour connaître la personnalité de la personne que j'accompagne, c'est hyper important. Parce que si je sens que j'ai une personne qui est hyper discrète, réservée, etc., c'est sûr que je vais pas lui proposer des associations de couleurs qui sont complètement excentriques. Et à l'inverse, si j'ai une personne qui a un caractère plus affirmé, qui envie de se faire remarquer, notamment parce qu'elle est dans une situation professionnelle où il faut qu'on la voie, il faut qu'on l'entende, etc., qu'elle marque les esprits, on va faire un travail d'association des couleurs complètement différent dans sa tenue. Et donc après, l'art, tout mon art consiste à comment on fait pour accorder tout ça, parce que parfois il y a peut-être des associations de couleurs qui sont en totale contradiction avec la colorimétrie de la personne. Donc comment on fait pour jouer avec tout ça? Puis alors en plus après, je parle vite, je vais me calmer. Les couleurs ont visuellement, par effet d'optique, elles ont un effet différent sur notre silhouette. Typiquement, les couleurs sombres ont tendance à affiner la silhouette, alors que les couleurs vives ou claires ont tendance à augmenter le volume d'une silhouette. Et donc, en fonction de ce que la personne a envie de renvoyer, tu vois, si la personne a envie de paraître plus épaisse, ou si au contraire, a envie de paraître plus fine, plus petite, plus grande, etc., on va aussi donner des conseils de couleurs qui sont différents pour créer cette illusion d'optique-là. Et donc moi, mon métier, quand j'accompagne les personnes vis-à-vis des couleurs, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre ces trois piliers-là, c'est-à-dire les couleurs qui nous vont bien au visage, les harmonies de couleurs qui renvoient l'image qu'on a envie de renvoyer et les couleurs qu'on doit porter pour valoriser notre silhouette de la manière avec laquelle on souhaite. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question.
Oui, ça répond à ma question, mais ça m'appelle une autre aussi, parce que du coup, je me demande dans ce procédé-là, c'est vrai qu'on a toujours tous envie d'être beau, d'être belle, parce qu'on parle des femmes, mais parfois, c'est bien aussi de lâcher prise sur un défaut et de l'oublier dans une globalité de qui on est.
Complètement.
Voilà. Donc ton travail, j'imagine, aide aussi et facilite les femmes pour s'apprécier dans un ensemble, finalement. Parce que quand tu te mets plus en lumière, même si tu veux paraître plus mince, ou quand tu es en lumière, même avec une rondeur.
Ah bah moi c'est ce que je leur dis tout le temps, c'est que souvent je peux avoir des clientes ou des clients qui sont dépités parce que la saison colorimétrique, donc les couleurs qui leur vont bien au visage, ne sont pas les couleurs qui correspondent du tout à leur personnalité. Moi c'est mon cas, ma saison colorimétrique c'est automne doux. Automne doux c'est quoi? C'est des couleurs qui sont très atténuées, donc l'inverse des couleurs vives, des couleurs qui sont chaudes. Moi je n'aime que les couleurs flashy. Je n'aime que les couleurs flashy, c'est ça qui me met de bonne humeur. Là aujourd'hui j'ai un pull bleu électrique, j'ai des chaussures à paillettes avec des panthères rouges dessus, enfin j'aime que ça. Bah, du coup je m'habille pas dans ma colorimétrie parce que ce qui me fait du bien moi au moral et ce qui fait que du coup je vais vibrer une énergie positive et que je vais rayonner.
Ça c'est le procédé des couleurs, c'est l'impact que ça peut apporter à ton humeur.
C'est ça, et donc je dis toujours à mes clientes, à mes clients, mais en fait c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. C'est pas moi qui vais vous dire non, il faut absolument que vous portiez les couleurs de votre colorimétrie, ou alors non, il faut absolument que vous portiez les couleurs qui correspondent à votre personnalité.
Tu les fais tester ?
Bah, en fait, c'est eux qui, souvent, si on fait le treat dressing, effectivement, dans l'accompagnement treat dressing, comme là, je leur constitue plein de tenues avec ce qu'ils ont déjà, on fait des tests différents. Mais en fait, c'est aussi tout simplement, je leur dis, voyez en fonction de votre humeur du matin. Il y a des jours où on se sent hyper audacieux et on a envie d'être un arc-en-ciel, et voilà. Il y a des jours où on est plus en mode cocooning, et là, on va être dans des couleurs qui sont plus douces, qui sont réconfortantes, etc. Il y a des jours où on se dit, non, j'ai vraiment envie de me faire cet effet bonne mine, donc c'est la colorimétrie qui va prendre le dessus. Et c'est pas grave si je porte pas des couleurs qui reflètent énormément ma personnalité. Donc, c'est à eux de doser en fonction de ce qui est le plus important pour eux. Puis en plus, il n'y a pas que les couleurs, en fait, dans un accompagnement de conseil en image, il y a aussi tout le reste. Donc, parfois, on peut s'habiller dans sa colorimétrie et puis avoir une énergie tellement positif, tellement dynamique que même si on porte des couleurs qui sont douces, bah, dans notre attitude, on va dégager un dynamisme quand même. Donc en fait, tout est une question d'équilibre en fonction de ce qui est le plus important pour la personne.
Exactement. Tu leur apprends à utiliser des outils et à nuancer aussi leurs élans.
Je leur apprends en fait à faire des choix en toute connaissance de cause.
C'est ça. C'est très intéressant.
C'est juste ça quelque part. C'est tout simple. Parce que souvent les gens viennent me voir en disant j'ai envie de me mettre en valeur. Ils aiment les vêtements, ils aiment faire du shopping. Mais en fait, ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais moi-même, avant que je sois conseillère en image et que je fasse mon formation, je ne connaissais pas les différentes harmonies de couleurs. Je ne savais pas qu'il y avait 5 harmonies de couleurs différentes, que ça renvoyait une image, ceci, cela. Donc des fois, il y a des choses qu'on fait par instinct. Puis des fois, il y a des choses où on a beau chercher, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus parce qu'on n'a pas la connaissance. Donc moi, je suis là pour leur apporter cette connaissance et leur montrer, leur expliquer comment ils peuvent l'utiliser au quotidien et comment ça peut être un outil facilitateur plutôt que quelque chose qui est prise de tête, en fait. J'essaye de justement de leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour leur simplifier leur quotidien et que s'habiller redevienne un plaisir, en fait. Se mettre en valeur redevienne un plaisir plutôt qu'une contrainte. Ça, c'est important.
C'est passionnant d'entendre. Ça paraît... On se rend compte finalement que le regard de l'autre, plus la technique de savoir de l'autre, déjà rien que de s'autoriser à se confronter à ce regard-là, nous fait déjà faire un chemin.
Ah, complètement.
Donc quand en plus l'autre a de la bienveillance, des connaissances, et que tout peut être pour toi source d'enrichissement de ta propre bienveillance, de ton propre regard sur toi, enrichi d'outils, de techniques. C'est magique.
C'est magique. C'est, effectivement, c'est magique si... il faut que tout parte de la personne.
Oui, c'est ça. Il faut que ce soit une vraie volonté, un vrai désir. Voilà. Mais de toute façon, les gens qui viennent te voir, ils ne viennent pas sous la torture.
Non, mais j'ai des cas de figure où on peut offrir mes services en cadeau à quelqu'un d'autre.
Et ça, là, souvent, c'est une
surprise. C'est pas que c'est plus compliqué, c'est que c'est plus délicat. C'est-à-dire que moi, la personne qui me contacte en me disant « Voilà, je voudrais offrir mon service à ma sœur, à mon frère pour son anniversaire, pour Noël, pour un enterrement vie de jeune fille. »
Tu leur dis « Ça, c'est compliqué.
Bah, » je leur dis pas que c'est compliqué. Je leur pose des questions pour comprendre si en fait, ok, là, ils font ce cadeau surprise à la personne, mais est-ce que la personne en question qui va bénéficier de mon accompagnement a déjà exprimé, de près ou de loin, la volonté un jour, peut-être, de faire appel à mes services, par exemple. Si c'est le cas, et que du coup, c'est juste que la personne est une facilitatrice et que c'est elle qui choisit de dépenser l'argent pour l'autre et
lui donner...
Je dis oui. Ça m'est déjà arrivé de dire non. Par exemple, j'ai un monsieur, une fois, qui m'avait contacté en me disant qu'il trouvait que sa compagne n'était pas assez féminine. Et j'ai posé des questions pour essayer de comprendre si est-ce qu'elle aussi se trouvait pas assez féminine. Et visiblement, elle avait l'air de se trouver très bien comme elle était. Et que c'était juste lui qui voulait transformer sa compagne.
Ouais, donc
pour
là,
la
c'est impossible.
Là, j'ai dit non.
Bah oui, parce que c'est pas... Parce que d'un point de vue de l'éthique, c'est pas
ma façon de concevoir les choses. Et pour moi, voilà, si la personne, elle est très bien dans sa peau, j'ai rien à changer, moi. Enfin, je veux dire...
Il faut juste qu'il change de femme.
Ah bah, c'est à lui de changer de... Oui, c'est peut-être à lui d'accepter le fait qu'il vaut mieux avoir une femme bien dans sa peau qu'une femme bien sapée, mais...
J'aime bien la formule qui est énorme et qui est finalement une synthèse de la réalité. Hein. C'est vrai que c'est important de respecter l'ADN de chacun, la personnalité de chacun, et d'aimer quelqu'un pour ça.
Oui. Et c'est vrai que dans mon métier, si tu veux, la question éthique se pose forcément parce qu'on vit quand même dans une société où l'injonction à la beauté est hyper puissante et hyper pesante, en particulier sur les femmes. Les hommes aussi, ils ont leurs autres types de poids.
Oui, c'est différent en tout cas, mais c'est vrai que ce poids-là est dur pour les femmes parce
c'est ça.
Il faut être parfaite, il faut être comme un tel, il faut être avec telle actrice, et alors cette mannequin, elle est extraordinaire.
Exactement, ouais. Les critères de beauté sont hyper pesants, et puis tu vois, dans le danger du conseil en image, c'est entre guillemets les premiers âges du conseil en image qui s'appelait le relooking. Je sais pas si tu te rappelles des époques du relooking, mais le relooking, maintenant qu'on voit ça un petit peu avec du recul, c'est très néfaste parce qu'en fait, le relooking, c'est une transformation totale de la personne, sans prendre en compte ses aspirations, sa personnalité. Souvent, ça faisait l'objet.
Ça peut être traumatisant.
C'est totalement traumatisant parce que souvent, c'était l'objet de shows télévisés. Bon, tout à l'heure, on parlait de Christina Cordula parce que c'est la pionnière, mais il y en a eu d'autres. La personne qui bénéficie du relooking n'est absolument pas prise en compte là-dedans. C'est au contraire, on fait le tour de l'entourage pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc on demande son avis à tout le monde autour de la personne. Et la personne, elle est complètement métamorphosée. Et en plus, dans un objectif d'émission télévisée, il faut que la transformation soit la plus waouh possible.
Mais c'est le paraître.
C'est le paraître.
Et pas l'être.
C'est le paraître. Et c'est pas, en tout cas, c'est pas le paraître au service de l'être.
C'est du bien-être, forcément.
Voilà. Complètement, t'as très bien résumé la chose. Donc c'est souvent très superficiel, et superficiel dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on reste tellement en surface des choses que ça peut pas être une transformation pérenne et viable dans la vie de la personne. C'est pas possible parce que c'est pas quelque chose qui lui correspond, c'est juste quelque chose qui est une transformation waouh, c'est comme un déguisement en fait.
Voilà, c'est exactement ça.
Mais la personne ne va pas se déguiser après pour tout le reste de sa vie, donc en fait elle est complètement démunie pour la suite, et je pense pas que ça fasse du bien à l'estime de soi. Donc bref, tout ça pour te dire que dans le conseil en image, il y a vraiment cette question de l'éthique qui se pose justement pour ne pas tomber dans quelque chose de superficiel, d'injonction à la beauté, de paraître, etc. Mais au contraire, plutôt d'aider des personnes qui ont ce sentiment qu'elles ont plus à exprimer et qui ne savent pas comment et qui aimeraient bien. Mais voilà, mais qui ne savent pas comment. Et donc les aider à se dire, maintenant, regardez, vous aussi, vous pouvez être mis à votre avantage. Vous aussi, vous pouvez être beau, belle, dégagé, quelque chose, etc. Si je vous donne juste les 2-3 petits outils dont vous avez besoin, parfois il suffit d'un rien, ça peut juste être un petit déclic, et pas de se croire qu'il y a le monde des mannequins et le monde du commun des mortels en fait.
Oui, en fait c'est vrai que là on parle à la fois de confiance en toi et de confiance en soi. Donc il faut déjà arriver à un discours qui soit très apaisant et très
bienveillant,
rempli d'amour. On parlait de l'amour,
oui.
De l'amour de l'autre et de
et d'écoute.
Et d'écoute, oui.
D'écoute de l'autre, c'est hyper important. C'est la première qualité pour moi d'une conseillère ou d'un conseiller en image, c'est l'écoute. C'est d'être capable d'entendre ce que la personne en face de nous a à nous dire et de ne pas vouloir lui calquer ou lui projeter ce qu'on pense qui lui irait bien sur elle. C'est vraiment... C'est pour ça que chaque accompagnement est méga personnalisé et que c'est hyper intéressant. Que tu peux pas, ce que j'ai fait sur une cliente, je peux pas le dupliquer sur une autre cliente, parce que chaque cliente a une personnalité complètement différente, un vécu complètement différent, un contexte complètement différent. Donc voilà.
Non, mais c'est très intéressant de t'entendre. C'est un mot que j'emploie souvent, intéressant, parce que j'ai toujours de l'intérêt à écouter chacun parler de son art.
C'est gentil.
Parce que je trouve que, justement, c'est aussi important de bien comprendre le métier de quelqu'un. Et aussi pour les gens qui auraient envie de venir te voir, c'est important qu'ils se sentent accueillis pour qui ils sont.
Oui.
Alors, je trouve passionnant de t'entendre parler de l'image, du ravissement, de l'enchantement que tu as de la découverte de l'autre, en fait. Parce qu'il s'agit de ça aussi.
Oui. Oui, complètement. Bah, il s'agit d'accompagner des êtres humains.
Voilà.
C'est ça. Il s'agit d'accompagner, d'être en contact avec l'autre.
Donc, il y a la spontanéité, il y a la sincérité, il y a... tu parlais de bienveillance, d'amour et donc ça, là, on vient de parler de l'image esthétique. Je sais pas, parce que si tu parles de la façon dont l'être va communiquer, c'est une façon de montrer ton image.
Complètement.
Mais il ne s'agit pas d'image, il s'agit de mots, là, pour le coup.
Oui.
Alors, comment tu peux accompagner quelqu'un à se sentir bien et spontané, à exprimer qui il est et à pouvoir le faire avec une fluidité et une aisance particulière?
Tu veux dire dans le cadre de la prise de parole en public,
par exemple?
Là, si tu veux, encore une fois, pareil, c'est un accompagnement qui est méga personnalisé, parce que chaque personne a un parcours, un vécu complètement différent et du coup des problématiques qui sont différentes. Donc les personnes qui me contactent, en fait, toujours par le biais d'un entretien découverte, je cible un peu quel est leur objectif, leur problématique. Et en fonction de ça, je leur propose soit un accompagnement 10 heures, soit un accompagnement 20 heures, soit un accompagnement 30 heures.
Ouais, tu sais s'il va y avoir beaucoup de travail.
Moi, je le sais et aussi, je m'adapte par rapport à la personne, c'est-à-dire son budget, le temps qu'elle a, le temps dont elle dispose, parce qu'il y a des personnes qui peuvent me contacter pour un accompagnement, on va dire, global, parce qu'elles savent que c'est un besoin qu'elles ont dans leur vie d'améliorer leur prise de parole en public. Mais il y a des personnes qui peuvent me contacter pour un objectif très précis. Je dois prendre la parole lors d'une conférence dans X semaines.
Ouais.
Il faut que je sois prêt. C'est ma plus grande peur. Et hop, là, on met en place un programme méga timé pour tenir dans le temps de cette prise de parole en public spécifique. Donc, ça dépend. Et puis, pareil pour le temps. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire, mais du coup, si c'est débutant, un forfait 10 heures, ça suffit pour faire le B.A.B.A. d'une prise de parole en public réussie. Donc, les techniques sur comment maîtriser son langage corporel, comment éviter, les injonctions orales, tu vois, les onomatopées, etc. Enfin, un petit peu tout ça, où on peut se dire, 10 heures, ça suffit. Mais à l'inverse, pour un débutant, parfois 10 heures, c'est pas du tout assez. Parce qu'il y a des débutants qui vont peut-être avoir besoin de 30 heures, parce que c'est vraiment un gros sujet auquel on s'attelle. Et donc, du coup, là, il faut un accompagnement sur du long terme. Parce que c'est important aussi de se mettre en tête qu'on ne fait pas de la magie, on ne fait pas des miracles.
C'est un investissement sur soi, donc c'est un investissement de temps.
Et ça prend du temps.
Et d'argent et d'énergie.
Et puis de changer ses habitudes. Quand ça fait, si j'ai quelqu'un qui me contacte, qu'elle a 45 ans, que ça fait 25 ans qu'elle travaille, 25 ans qu'elle complexe sur la prise de parole en public, je pas résoudre son problème en 3 séances, c'est pas possible.
Non mais c'est extrêmement
faut être
important que tu
hyper honnête.
Faut être réaliste,
bah oui.
Bien sûr.
Faut être hyper honnête avec les personnes où l'accompagnement, c'est là pour mettre la pierre à l'édifice et poser les bases et aider la personne à se créer des nouvelles habitudes, à les ancrer, etc. Mais après, quelque part, c'est un cheminement.
Ouais.
Que la personne va devoir continuer elle-même, même après la fin de l'accompagnement. Puis de toute façon, moi, je reste toujours disponible
pour
mes clients et mes clientes, même un an après.
Un rappel.
C'est ça, faire des séances.
Où est-ce que vous en êtes, là, sur cette thématique-là?
C'est ça. Et du coup, comment je les accompagne? Ça dépend. Y a des personnes qui vont avoir une grande présence, on va dire, physique, mais qui vont bégayer, qui vont avoir du mal à choisir les bons mots, etc. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt faire des exercices de tout ce qui est gestion du stress, relaxation, se calmer, parce que souvent, ils ont les idées, elles sont là, mais c'est juste qu'ils ne savent pas gérer leur stress.
Panique.
Voilà. Donc là, c'est plutôt ça qu'il faut apprendre. Donner des outils aussi pour essayer de se distraire ou de s'ancrer, justement, ancrer sa concentration pour ne pas se laisser distraire par autre chose et du coup perdre le fil de ce qu'on était en train de dire ou se laisser décontenancer par, je sais pas, une attitude dans un auditoire de quelqu'un qui nous contrarie un petit peu. À l'inverse, il y a des personnes qui vont être à l'aise avec le discours verbal, mais qui vont être complètement figées dans leur corps, ou qui vont gigoter à l'inverse complètement, enfin, et qui vont vraiment avoir besoin de travailler beaucoup plus sur leur gestuelle, leur communication justement non-verbale, leur body language. Donc en fonction en fait, d'une personne à une autre, on va concentrer nos efforts plus sur un domaine ou sur l'autre en fonction de, bah, de là où est le besoin de la personne que j'accompagne. Et après, il peut aussi y avoir un troisième travail sur carrément le discours, c'est-à-dire le fond.
Ouais.
Parce que là,
exprimer ce qu'on veut dire.
C'est ça. Parce que la communication verbale et non-verbale, on est plus sur la forme. Travailler l'intonation de la voix aussi, apprendre à poser sa voix,
C'est du acting process aussi.
Ah, complètement. Complètement, complètement. Et après, voilà, il y a le fond, vraiment le fond du discours. Et là, bah là c'est vraiment, vraiment personnalisé en fonction de la personne. Comment apprendre à négocier, comment apprendre à être plus impactant, les mots à éviter, comment ne pas mettre de la négation dans sa phrase, la communication positive, la communication non violente.
C'est,
enfin, bref.
C'est très transversal, en fait.
Oui. Oui, oui.
C'est pas intéressant, c'est passionnant parce que. Alors, en général, quels sont les déclics qui font que les gens viennent, réalisent en fait et ont l'estime d'eux-mêmes suffisante pour oser contacter quelqu'un comme toi ?
Toujours par rapport à la prise de parole en public ou en général ?
Non, en général.
En général, pour tout ce qui va être accompagnement vestimentaire, parce que c'est quand même ce qu'on me demande le plus encore aujourd'hui. Souvent, je vais avoir, par exemple, quand il y a eu un déclic, c'est souvent lié à un événement dans la vie personnelle, comme par exemple la maternité.
Ouais.
Ou la paternité, d'ailleurs. C'est-à-dire des personnes qui se retrouvent jeunes parents. Qui dans ce tsunami que ça représente de mettre au monde un être humain et de s'en occuper, de le maintenir en vie, se sont un peu oubliés, se sont un peu perdus eux-mêmes et ont besoin de se retrouver et de se réapproprier leur corps. Pas forcément revenir à l'identique de ce qu'ils étaient avant, mais en tout cas de trouver une autre manière d'être eux-mêmes. Avec cette donnée
d'accueillir voilà. Ces métamorphoses qui peuvent être physiques, tu veux dire.
Ouais, voilà, qui sont pas forcément faciles et même psychologiques. Parce que des fois on change pas au physique mais on change au niveau du psychologique
bien
et on a peut-être plus du tout envie de s'habiller de la même manière une fois qu'on est parent alors avant qu'on ne l'était pas et donc c'est plus la même chose. Ça peut être par exemple aussi une évolution dans la vie professionnelle. Alors soit une évolution entre guillemets vers le haut, vers le mieux, on a obtenu une promotion mais je sais pas, moi je suis hyper jeune par exemple, j'ai 25 ans et je me retrouve à devoir manager des personnes qui ont 40 ans.
Il va falloir que je change quelque chose.
Voilà. Je suis une femme dans un milieu d'hommes, comment réussir à m'imposer tout en restant moi-même, parce que c'est souvent ça la problématique dans le monde professionnel, c'est comment j'arrive à intégrer les codes de l'entreprise pour être capable de m'intégrer et pas être complètement une excentrique qui détonne dans le paysage, etc. Mais comment je fais ça tout en restant moi-même et on me s'entend bien en plus en ayant quelque chose qui me valorise, etc. Mais ça peut être aussi une évolution vers le bas. Par exemple, j'ai pas obtenu la promotion que je voulais, je me suis fait renvoyer ou je suis dans une recherche de travail. Tous mes entretiens d'embauche passent pas super bien, je me sens pas forcément confiant. Donc dans le milieu professionnel, ça peut être ça beaucoup. L'avancée en âge aussi.
Alors là, c'est hyper intéressant, tu me parles de ça, excuse-moi, je t'interromps et je te saute dessus.
Ouais, ok, super. Saute-moi dessus.
Non, je trouve ça très intéressant, il faut que j'arrête avec ce mot, mais je trouve ça rare, déjà, que quelqu'un aborde aussi facilement cette thématique, et je trouve que c'est bienveillant à l'égard des êtres qui vieillissent, parce qu'on est tous là. Et on ne peut pas avoir toujours un visage radieux de 25 ans, pas une ride. Et le vivre très bien. Et je trouve que quand on arrive à assumer son âge, là je parle très, très personnellement d'ailleurs, quand on commence à comprendre que c'est merveilleux de vieillir aussi, de gagner en maturité, de gagner en sérénité, de lâcher prise. finalement, et que ce discours commence à être véhiculé. Et ben, quand on peut aider quelqu'un pour ça, c'est cadeau, hein. C'est le bonus total.
Parce mais complètement.
Parce que le bien-être, se sentir bien, c'est lâcher cette pression constante.
Oui.
De paraître.
Oui.
Et avoir une bonne image, c'est pas forcément paraître.
Oui, exactement. C'est être. Exactement. C'est génial la perche que tu me tends, parce que tu mets en évidence quelque chose qui peut paraître paradoxal pour les personnes qui nous écoutent, parce que souvent le conseil en image peut avoir cette connotation hyper péjorative, voire superficielle de « ah, on est dans le paraître », etc. En fait, pas du tout.
C'est
juste des outils, au contraire, pour se libérer de tous les dictats qui pèsent sur nous, qu'on a entendu depuis l'enfance, depuis l'adolescence, dans les magazines, dans les publicités à la télé, sur les abribus, enfin, tu vois, sur tout ça, et de se dire, mais je lâche tout ça et je me reconnecte à moi, et comment je fais pour me trouver beau, belle, bien, moi, en fait, la manière avec laquelle je me regarde moi.
Et... C'est ça, et ça c'est fondamental.
Et ça c'est fondamental, et en plus, le plus tôt on le fait, mieux c'est. Parce que moi je connais une femme dans mon entourage familial qui a 55 ans. Je pense qu'elle a fait des régimes toute sa vie. Toute sa vie elle a fait des régimes alimentaires. Et elle adore la mode, elle adore les vêtements, elle est très coquette.
C'est privé.
Elle adore se faire belle. Non, c'est pas qu'elle se prive, c'est qu'elle s'est fait violence toute sa vie en fait. C'est que si elle prend 3 kilos, c'est dramatique, c'est. Elle se sent comme une merde, enfin, vraiment,
non, mais
c'est
ça,
de sa
c'est,
faute.
Ça, c'est fort ce que tu exprimes, parce que c'est toute la problématique dans laquelle on est à notre époque, justement, de cette quête de bien-être,
oui.
Cette quête d'apaisement. Tu parlais d'arriver à dire non aux diktats et d'arriver à dire non aux gens autour de toi, précisément, qui trouvent toujours quelque chose à redire de toi au lieu de regarder tout ce qu'il y a de ravissant, tout ce qu'il y a de oui. merveilleux, tout ce qu'il y a de fantastique chez un individu finalement.
Et puis souvent les gens qui nous disent quelque chose de négatif sur nous, ça en dit plus sur eux que sur nous-mêmes.
Ça, c'est tout.
C'est que c'est souvent quelque chose qu'ils se reprochent à eux-mêmes ou qu'ils ne s'autorisent pas à eux-mêmes. Et du coup, ça génère soit de la jalousie, soit de l'envie, ouais. soit de la rancœur, etc. Et donc, ça va se manifester à notre rencontre. Mais moi, ouais. tu vois, alors pour faire le lien avec moi, mais moi, j'ai toujours eu des goûts originaux. J'ai une personnalité haute en couleur. Voilà, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire, qui se remarquent, qui ne sont pas forcément considérées comme beaux, belles par la majorité. Et aujourd'hui, je suis tellement bien dans ma peau, en tout cas dans mon corps, que j'en suis rapidement arrivée à un stade où... des fois, je mets des trucs et mon copain, donc la personne avec laquelle je partage ma vie, ma mère, vont me dire « Ah, oh, c'est moche ça, je comprends pas pourquoi t'as acheté ça, c'est affreux, etc. »
Et moi, ça glisse leur... comme
ça. Ah, mais ça me glisse dessus. Je leur réponds « Mais je m'en fous, je préfère mes goûts que les tiens.
» Bravo.
Mais voilà.
Je dirais qu'il y a un mot « bravo ». Tu sais, j'ai exercé pendant un temps... Je vendais des accessoires pour les cheveux dans un grand magasin. Et c'était très intéressant, d'autant plus que comme je suis petite fille de modiste,
génial.
C'était très intéressant pour moi, et créatrice de bijoux aussi.
Ouais.
C'était très intéressant pour moi d'observer finalement à la fois les femmes en train d'essayer des choses,
ouais.
et la façon dont une femme se faisait un cadeau, ou la façon dont elle l'était et elle se comportait quand elle venait avec son chéri. Alors je dis chéri, ouais. parce que ça peut être son amoureux, son mari, son ouais. amant, peu importe. Après, on n'a pas de jugement à porter là-dessus, mais en fait, la façon, le comportement intrinsèque de l'individu. Et c'est très intéressant de voir et d'observer justement le regard d'un individu sur soi.
Ouais.
Et est-ce que le fait que ton conjoint te dise « Ah ben non, ça c'est pas le truc que je préfère », est-ce que ça va t'empêcher de te faire plaisir ? Et ça, c'était une problématique. Et tu vois ce que tu viens d'exprimer,
ouais.
c'est bravo, parce que c'est tellement rare, en fait. Et ça veut dire qu'effectivement, toi, tu es aujourd'hui à un stade où tu es tellement bien dans tes comptes, tu es aligné, et du coup, tu sais que c'est ça la chose la plus importante, et que si on t'enlève ça, ben, tu vas avoir moins de pétillance, tu vas perdre des couleurs, justement.
Oui.
Et du coup, ben, peut-être que lui, il ne se rendra pas compte qu'il y a des trucs qui changent, il n'aimera pas.
Mais
il
ne saura
pas
préciser ce que c'est. S'il est avec moi, c'est pour une bonne raison.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il a beau dire tout ce qu'il veut. Moi, à notre premier rendez-vous, je suis arrivée avec une ombrelle. Tu sais, les ombrelles à l'ancienne, en dentelle. Ouais. Bah oui, c'était le mois de juillet, il faisait hyper chaud. Moi, j'ai un petit côté un peu rétro, j'aime bien les choses vintage, etc. Donc j'ai une ombrelle en dentelle que je sors l'été comme un parapluie quand il pleut, bah moi je sors mon ombrelle quand il y a du soleil pour m'abriter du soleil. Donc tout le monde me regarde avec des grands yeux ronds, ouais. Mais je suis arrivée à notre premier date comme ça et j'avais absolument pas peur de faire mauvaise impression, de passer pour une uberlue, une énergie. J'étais moi-même.
Voilà.
En fait, il faisait chaud, il y a du soleil, bah je sors mon ombrelle, c'est QFD quoi. mais oui, en plus, tu vois, ce que moi j'ai pu constater par mon expérience à moi, c'est qu'il y a un moment donné, quand on est tellement aligné avec soi-même que c'est même plus une question, c'est même plus un sujet, que en fait moi je me rends compte dans mon entourage, en fait les gens vont même plus questionner mes goûts parce que c'est moi,
que c'est toi, ouais.
Parce que c'est moi et la phrase que j'ai la plus entendue le plus souvent de toute ma vie, dans l'histoire de ma vie par rapport à mon style, c'est moi j'oserais jamais mais toi ça te va trop bien.
Oui, ben c'est ça.
Ben oui, mais tant
typiquement
mieux.
Mes bottes d'aujourd'hui.
Tant mieux.
Oui, oui.
Je sais que j'ai plein de copines quand je vais leur montrer qu'ils vont les trouver super canons, mais qu'elles, elles n'oseraient jamais les porter parce que trop voyantes, trop excentriques, etc. Mais elles me disent, toi, ça te va trop bien. Et pourquoi moi, ça m'irait mieux qu'à elles? Pas forcément.
Parce que c'est aligné avec qui tu es.
C'est juste parce que j'assume tellement de les porter que du coup, on se dit pas, mais c'est qui cette hurluberlue? Bon, remarque, peut-être qu'on se le dit, je ne sais pas.
Tu non, vois, mais... parce que je pense que ce que tu verbalises, c'est que finalement, quand on est bien dans son axe, quand tout est juste, d'abord tout est juste dans la vie, hein, même quand tu es décalé, quand ça va pas, c'est que ça fait partie de ton chemin, donc c'est juste, c'est ton chemin d'apprentissage de la vie. Mais le fait d'être, d'avoir justement ce petit quelque chose en plus qui fait que c'est une couleur. Si on parlait d'un tableau, ça serait une nuance que tu viens rajouter, et sans cette nuance-là, les autres, elles ne prennent pas leur éclat.
Ouais.
Donc c'est... Être soi-même, c'est un chemin, mais quand il arrive, c'est fantastique. Et c'est aussi sûrement parce que tu dégages ça. Les gens ont confiance en toi pour...
Complètement.
Voilà. Si tu étais décalé par rapport à ça, personne ne viendrait te voir.
Exactement. Exactement. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant, parce que les gens qui viennent me voir, ils ne viennent pas forcément parce qu'ils veulent le même style que moi. Alors que je pourrais avoir un peu cet a priori de me dire, oh là là, j'espère que les gens qui me suivent sur Instagram, par exemple, ils vont pas me trouver trop originale et ils vont se dire, mon Dieu, si je viens lui demander de me faire un style élégant et classique, elle ne saura jamais. Et en fait, pas du tout. C'est pas ça qui compte du tout. Souvent, les gens aiment bien ma personnalité, mais parce qu'ils me disent, voilà, j'aime bien, tu dégages une énergie, t'es solaire, en plus tu portes des couleurs, etc. Mais ça veut pas dire que pour eux-mêmes, ils veulent porter des couleurs.
Non, mais c'est cette énergie radiante.
C'est la personnalité.
Qui va les... Bah oui, parce qu'ils ont bien compris que quelqu'un qui... Je crois, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui vibre la joie, la pétillance, a priori, elle va pas te faire de mal. Bien au contraire.
J'espère pas. Oh mon Dieu.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
C'est que on essaie tous, dans notre vie, je pense, dans notre environnement, de dégager les gens qui sont ternes, qui sont dans l'ombre, qui sont toxiques, qui ont des comportements dysfonctionnels. Donc, c'est pas pour aller consulter quelqu'un qui vibrerait ça.
Ouais, alors attention, je vais juste mettre un petit bémol sur faire le distinguo entre les gens qui sont ternes et qui sont dans l'ombre et les personnes qui sont toxiques et qui ont un comportement dysfonctionnel. Parce que,
c'est intéressant que tu le verbalises.
Ouais, il y a plein de personnes. Moi, justement, tu vois, la plupart de mes clientes, c'est des gens qui vont s'auto-juger comme ternes et qui s'auto-placent dans l'ombre.
Ouais,
mais
l'ombre,
tout le monde n'est pas fait pour prendre toute la place et toute la lumière et toute la couleur. Tu vois, c'est ça. Il y a aussi ce type de personnalité à respecter où tu as des personnes qui sont plus discrètes, plus réservées. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont aussi à avoir dans notre vie, mais qui, tu vois.
Donc c'est pour ça. Préciser, parce que quand je parlais de l'ombre, je parlais de gens...
Le côté noir.
Oui,
côté
c'est ça, dark, des gens qui vont pas être, voilà, des dark de la force, des gens qui vont pas avoir un gentil mot à ton égard, qui vont pas avoir une caresse verbale, tu vois.
C'est ça, en mode dark Vador, quoi.
C'est ça, non, mais c'est important aussi, parce que je pense aussi que dans la patientèle, parce que je ne sais pas si on peut dire des patients, enfin ta clientèle.
Ouais.
Oui, mais à mettre du baume au cœur à quelqu'un, pour moi, c'est aussi une forme de... C'est mettre du bon. C'est mettre... tu vois, c'est de l'holistique. C'est pas de la médecine, mais c'est... peut enlever ça, on pourra le couper si tu veux.
Non, ça me dérange pas du tout.
Moi, je trouve que c'est important de se rendre compte que ça fait partie... parce que aller bien, c'est quand on est dans son axe. Aller bien, c'est quand on est entouré de bienveillance. Aller bien, c'est quand on est dans la lumière. Mais être dans la lumière, ça ne veut pas dire être au premier rang ou être sur scène.
Non, pas forcément. C'est donc, être dans sa lumière
voilà,
à soi.
C'est ça,
oui, bien sûr.
Donc, c'est là où je veux dire, dire que c'est quand même important. Et ce que tu as eu raison de préciser, c'est que pour moi, l'ombre, c'était plutôt le côté toxique.
Oui, tu as raison. Il y a des gens qui sont plus ternes parce qu'ils ne savent pas. Et justement, toutes ces couleurs, tous ces mots, ça va leur donner des nuances, ça va leur donner des épices qui vont générer du plus Pepsi, en fait. Même si ça ne va pas être, comme tu le disais tout à l'heure, du phosphorescent.
Non, complètement. Et puis, si je peux me permettre de rebondir sur justement un sujet que tu as amené dans la conversation, qui est la toxicité de certaines personnes qui nous entourent. Moi, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir, qui ne s'autorisent pas à briller, qui ne s'autorisent pas à se mettre en valeur, à être dans la lumière, parce qu'ils ont peur de la réaction ou du comportement de telle ou telle ou telle personne de leur entourage, et souvent dans leur entourage professionnel. Et c'est moi-même quelque chose que j'ai vécu, sinon je ne serais pas là aujourd'hui à t'en parler, et ce n'est pas un hasard qu'il y ait des personnes qui viennent me voir aujourd'hui et qui se retrouvent dans ce même cas de figure. Mais le côté où on est dans un environnement personnel ou professionnel, où on a une personne qui est toxique et qui nous force à nous minimiser, à nous restreindre, à nous diminuer, à pas prendre de place, à se faire discrète, à pas parler trop fort. Et alors là, si je fais le lien avec les femmes et la société patriarcale, là tu m'embarques encore pendant une interview de 3 heures, mais c'est un autre sujet. Mais bref, grosso modo, des personnes qui se contiennent, qui se restreignent parce qu'elles ont peur que si elles prennent toute la place, si elles s'autorisent à être dans la lumière, à briller de mille feux, à mettre en avant tout ce qu'elles ont beau à mettre en avant, eh ben, il y a des personnes toxiques de leur entourage qui vont leur reprocher,
vouloir,
parce qu'ils vont se sentir menacés, qui vont les jalouser et qui vont leur faire payer. Et si tu savais le nombre de personnes, mais moi-même, c'est ce qui m'est arrivé dans ma toute première expérience professionnelle, où pour la première fois de ma vie, j'étais face à une individu qui, je ne sais pas pourquoi, pour une raison X ou Y, avait décidé qu'il n'y avait pas assez de lumière pour nous deux, et que, bah, de grosso modo, on ne pouvait pas briller toutes les deux. Et que si elle voulait briller, il fallait qu'elle m'évince. Et moi, la leçon que j'en ai tirée après pour toutes les années qui ont suivi dans mon expérience professionnelle, c'est surtout fais-toi discrète, ne te fais pas remarquer.
Ouais, c'est terrible ça.
Ne prends pas le spotlight, n'attire pas la lumière, n'attire pas les regards sur toi, parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de la critique, j'avais peur de l'envie, de la jalousie, du rejet. En fait, c'est humain d'avoir peur du rejet, de se faire abandonner, etc. Et en fait, c'est tellement dommage parce que ça, ce type de comportement, ces personnes toxiques-là qu'on peut avoir dans notre entourage, quand on les autorise à nous laisser nous diminuer, nous restreindre comme ça, ça peut avoir un impact beaucoup plus grave et beaucoup plus long terme sur tout le reste de notre vie, et notamment de notre vie professionnelle.
Et de notre santé.
Et de notre santé mentale, bien évidemment.
Physique aussi.
Oui, j'imagine physique aussi. Donc, tu vois, pour en faire le lien avec les personnes toxiques, moi, j'accompagne énormément de personnes qui, en fait, elles savent qu'elles ont plein de choses à donner. Elles savent qu'elles ont un full potentiel à déployer.
Et en fait, elles ne savent plus comment faire.
Elles ne s'y autorisent pas. Elles ont besoin de quelqu'un qui les aide à s'y réautoriser. Parce que souvent, elles ont eu, ou elles ont encore, une ou plusieurs personnes toxiques dans leur entourage qui font qu'elles ont trop peur de s'autoriser à être elles-mêmes. Parce qu'elles pensent que si elles sont elles-mêmes, eh ben, les autres vont les rejeter, les détester, les envier, les jalousies, les critiquer, etc.
Oui, mais tu vois,
etc.
Comme quoi, ça fait partie de... C'est en ça que je dis que pour moi, c'est un soin.
Oui.
C'est un soin parce que... et c'est là où c'est important aussi de remettre les choses à leur place, qui sont que, à mon avis, il y a tous les chemins mènent à la beauté, tous les chemins mènent au bien-être. Et quel que soit l'art, quel que soit le talent d'un individu, il y a aujourd'hui une palette incroyable d'êtres qui peuvent accompagner quelqu'un à son bien-être, à sa métamorphose, à son procédé alchimique, de vraiment devenir soi-même. Et donc te croiser, c'est chouette.
Ah bah, merci. Moi aussi, je suis contente de t'avoir croisée.
Non, mais je suis contente que tu viennes raconter tout ça au micro de Tribu d'Amour, parce que c'est important de croiser des êtres différents et de savoir qu'on peut avoir confiance en des gens qui vont, de par leur bienveillance, leur talent, leur joie, leur bonne humeur, leur expérience, parce que tu parles de l'expérience,
bien sûr.
C'est fondamental d'être passé aussi soi-même par ça.
Exactement.
Pour savoir comment se sortir de cette situation.
Oui.
Et ton chemin, il aide le chemin d'autres, quoi.
Bah, c'est ça. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu 6 ans, donc si je peux leur faire faire en 6 mois, c'est tout bête.
Oui, non, mais c'est ça, en fait. Je pense que l'aide, l'aide, l'accompagnement. Mais parfois, la chose la plus difficile, c'est d'arriver à s'autoriser à demander. Hein. C'est de se tourner vers quelqu'un. Donc, quand tu as des gens qui viennent te voir, c'est déjà la moitié du chemin qui est gagné.
Mais
tu
as complètement raison. C'est déjà la moitié du chemin parce qu'en plus, il y a le fait, comme tu disais, d'oser s'avouer qu'on a besoin d'aide, de franchir le pas, de s'autoriser à faire ce type d'investissement financier, parce que ça reste des accompagnements. Voilà, quand on paye 1 500, 2 000 euros pour faire un accompagnement total avec moi, ou un coaching, tu vois, de 30 heures et que ça te coûte, je ne sais plus combien je le vends d'ailleurs, mon coaching de 30 heures, je crois 3 000 euros, quelque chose dans le genre. C'est quand même un investissement et ce sont des sommes qui aujourd'hui dans la société, ça choquerait personne d'investir ça dans un voyage ou dans un ordinateur ou un iPhone, mais par contre de s'offrir ça dans un accompagnement de conseiller en image, ça peut être très mal vu par notre entourage parce que c'est considéré comme une dépense qui est quelque part un peu
superficielle,
luxueuse, t'en as pas vraiment besoin mais tu pourrais te débrouiller par toi-même, etc. Et donc là encore, il y a tout ce travail de se défaire du regard des autres, se défaire du jugement des autres pour
qu'est-ce
s'autoriser
bon
à s'offrir.
Et
voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche.
Pardon.
Non, mais avec plaisir, on est alignés, on est connectés.
Oui. Ah oui, ça c'est sûr.
C'est exactement ça. S'autoriser à s'offrir qu'est-ce qui est bon pour soi et ce dont on a besoin. Et moi, je trouve ça hyper important de le garder à l'esprit qu'en fait, c'est un investissement. J'ai une consoeur parce que dans l'école que j'ai faite, on a un groupe WhatsApp de toutes les anciennes élèves.
Ah, c'est sympa ça.
Ouais. Toutes les conseillères et tous les conseillers en images qui ont fait cette formation. Et la pauvre, elle a fait un post sur Facebook pour proposer ses services. Et elle a un hater qui est venu commenter en disant « Ah là là, mais ça vaut pas, c'est de l'arnaque de vendre des prestations à ce tarif-là. Il n'y en a pas besoin. Moi, à ce tarif-là, je préfère m'offrir un voyage, etc. » Et certes, j'entends parce que moi, j'adore voyager.
Ça, c'est un voyage vers soi.
Voilà. C'est un voyage vers soi. Et en fait, je me dis, mais il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas que... Oui, un voyage, c'est une super expérience. Moi, je suis la première à voyager, j'adore ça. Mais ça reste un plaisir qui est éphémère. C'est-à-dire que ça va durer le temps de la durée du voyage. Une semaine, deux semaines, trois semaines, enfin, peu importe.
Alors, je dirais mais c'est... que le voyage... Enfin, alors là, je suis pas d'accord dans le sens où... Enfin, je dirais que... C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que rien ne nous... Enfin, tout nous impacte.
Mais bien sûr.
Donc, un voyage...
Et tout peut coexister.
Voilà. Mais je pense que le premier des voyages, c'est quand même le voyage vers soi. Parce que c'est celui qui te permet ensuite d'apprécier tout le reste.
Ben, on est d'accord. C'est-à-dire que pour moi, et que ce soit via un accompagnement de conseiller en image, mais comme tu disais, il y a tellement d'autres types d'accompagnements qui peuvent aider une personne à aller vers elle-même. Mais en tout cas, je trouve que c'est le plus bel investissement qu'on puisse se faire dans sa vie pour ensuite vivre une vie où on est pleinement épanoui, aligné avec soi-même et être capable de ressentir tout le reste. Quoi.
Tu as parlé du corps, tu vois. Tu sais comme moi que j'ai traversé une maladie et toute la thématique, elle a été justement de réintégrer un corps de femme et d'accepter son corps de femme parce que la maladie vient d'une problématique avant. Et en fait, tout justement cette rencontre, donc moi je conseille à tout le monde hein, de faire ce choix de prendre soin de soi parce que d'abord, ça peut éviter des gros soucis qui viennent s'ancrer dans le corps parce que quand on est bien dans ses baskets et qu'on arrive à avoir un discours comme le tien, comme tu nous as dit tout à l'heure sur le fait de ne pas être impacté par qui que ce soit, même en allant jusqu'à la personne que tu aimes, une des personnes que tu aimes le plus souvent, puisque c'est la personne avec qui tu vis, ta maman, c'est un message très fort que tu envoies parce que...
D'amour envers soi-même.
Mais c'est ça, oui. D'amour envers soi-même. Et je pense que s'il y a bien un amour par lequel on doit commencer, c'est celui-là, et c'est tellement antinomique de la société dans laquelle on vit, qui est en métamorphose et qui est en train de changer.
Oui.
Mais jusqu'à présent, on nous dit toujours qu'il faut d'abord faire pour les autres.
Ah oui.
Alors qu'en réalité, quand t'as pas traversé quelque chose, toi, tu donnes des conseils à quelqu'un, qui sont les conseils que tu as appris de la théorie,
oui.
Alors que l'expérience... c'est autre chose.
Oui, bien sûr. L'expérience, et du coup, pour moi, l'expérience, en fait, ça vient amener les valeurs. En fait,
ça vient ancrer.
Ça vient ancrer tes valeurs. Comment tu décides de pratiquer ton accompagnement, quel que soit le type d'accompagnement que tu proposes. Mais effectivement, c'est hyper important, en fait, les valeurs, de se poser la question éthique. C'est-à-dire quels sont les principes qu'on a envie de se donner à soi-même pour accompagner les personnes qu'on accompagne. C'est hyper important.
Quelles que soient les techniques, je pense que ce que tu as choisi d'incarner, c'est l'essentiel pour un individu. C'est l'essentiel. Parce que être bien dans son corps, être bien dans sa tête, être bien dans son image, se trouver beau quand on se trouver beau, se trouver charmant, comprendre que la beauté c'est autre chose que plastiquement une perfection ou une imperfection. Quand tu arrives à intégrer ça, tu arrives à être joyeux tout le temps en fait. Même si tu as des gros soucis en réalité, tes soucis vont s'évaporer si tu leur dis va te faire voir mon petit souci.
Alors je sais pas, parce que j'imagine qu'il y a des types de soucis qui s'évaporent pas comme ça, mais j'ai la chance d'y avoir jamais été confrontée, mais en tout cas ça peut alléger un cœur lourd, je pense.
Oui, mais les soucis, tout le monde a des soucis dans la vie, on n'a pas les mêmes.
Ouais.
Mais je pense que quand tu arrives à danser avec ton souci en étant joyeux, t'as gagné, et les soucis ne gagneront pas sur toi.
Ouais, j'aime bien cette métaphore, danser avec les soucis, c'est joli.
Donc finalement, quand on peut croiser des êtres qui nous aident à danser avec les soucis.
Oui, c'est ça, oui, puis ça me faisait penser à, tu sais, justement là, dans cette mouvance de un peu des courants un peu holistiques, etc., New Age, on parle beaucoup de la loi de l'attraction.
Oui, bah c'est tellement vrai, bah, bien sûr. Mais,
moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui croient à la loi de l'attraction d'un point de vue mystique. Alors que moi, j'ai une compréhension qui est beaucoup plus métaphorique, où pour moi, le principe de la loi de l'attraction, c'est que c'est plus facile de rencontrer des personnes qui te sourient dans la rue si toi-même tu souris à leur passage. Et pour moi, en fait, l'image, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas paraître pour faire semblant, c'est pas paraître pour porter un masque et donner l'illusion qu'on est quelqu'un d'autre, c'est d'incarner pleinement qui on est, nous, soi-même. Être aligné avec ça, être bien dans ses baskets, et à partir de là, grâce à ça, quelles que soient quelque part les options stylistiques, vestimentaires, de couleurs, nanani, nanana, les accessoires qu'on a choisi, quel que soit ce qu'on a choisi, on va dégager une énergie, on va vibrer, on va rayonner une énergie qui va être tellement positive que c'est ça qui va faire ce côté aimant et qui va attirer des choses positives dans notre vie.
Encore dans le mot amour, c'est-à-dire que finalement, si tes petites rides, tu les aimes, si tes cheveux blancs, tu les aimes, si tes yeux bleus, tu les aimes, et que tu es heureux avec, forcément, tu vas rayonner, tu vas vibrer.
Mais exactement.
Et ce que tu vas vibrer va effectivement aimanter l'autre.
Mais c'est génial. Tu vois, tu me donnes l'exemple des cheveux blancs. J'ai accompagné récemment une cliente qui avait la quarantaine passée et qui, elle a vraiment tous ses cheveux qui deviennent blancs. Depuis des années, elle a tous ses cheveux qui deviennent blancs, et donc c'était une corvée pour elle parce que il fallait qu'elle se colore entièrement les cheveux. En plus, elle a une superbe longue crinière qui lui arrive quasiment jusqu'en bas des fesses, enfin, vraiment des cheveux magnifiques. Et puis elle est brune, donc en fait, dès qu'il y avait les racines qui revenaient, ses racines étaient blanches, 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 donc ça veut dire l'entretien des racines, donc il passait du temps,
pire que tout,
de l'argent, de l'énergie, etc. Et là, elle a décidé de se laisser pousser ses cheveux, et alors en plus de les laisser pousser au naturel. Donc là, tu vois, elle avait les cheveux, alors les gens vont pas voir au micro, mais elle avait les cheveux blancs qui lui arrivaient à là, mais elle avait encore toute la longueur de ses cheveux jusqu'à son bassin,
donc de l'oreille
qui était teint, et elle veut les laisser pousser naturellement. Et donc, pour faciliter cette transition capillaire, elle a décidé de faire appel à moi pour faire son analyse colorimétrique, parce qu'elle s'est dit, tiens,
ça va changer quelque chose, bien sûr.
Alors non, ça change pas quelque chose, mais elle s'est dit, moi je me suis jamais habillée en fonction de ma colorimétrie, là quand même pour m'aider psychologiquement à me faire à l'idée que je vais avoir des cheveux blancs, je vais utiliser la colorimétrie. Et cette femme, alors en plus j'ai utilisé l'intelligence artificielle avec une photo d'elle, je lui ai montré ce que ça donnerait elle quand elle aurait les cheveux tout blancs.
Waouh.
Et ça lui allait tellement bien. En fait, cette femme, elle rayonne tellement, elle est tellement solaire, elle est tellement lumineuse, qu'en fait, mes cheveux marrons ou cheveux blancs, mais...
Ça change rien.
Ça change rien.
Mais
ça
alors,
change rien.
Tu vois, ça, c'est génial que tu dises ça, parce que, en réalité, ça prouve bien que l'essence même d'un individu, c'est son âme et c'est ce qu'elle vibre.
Oui, c'est son énergie, oui,
complètement. C'est comme un enfant, en fait. Un enfant, à moins que tu le martyrises, il rayonne tout seul.
Certes.
Donc, il n'a pas encore fait le chemin de la vie s'il vit dans un environnement qui est sain.
Ouais.
Il n'a pas encore fait le chemin de la vie qui a pu l'abîmer. Et du coup, il faut faire sourire notre petit enfant intérieur. Et si on nous martyrise, et si on nous harcèle, et si on nous... dit des choses malveillantes, et si on nous empêche, et si on nous dit il faut faire comme ça, et si on nous dit tout ça, ça petit à petit, ça nous enlève tout ce qu'on a de joli. Oui, tout ce qui vit, tout ce qui est vivant et qui rayonne.
Oui, et tu vois, j'ai envie de rebondir sur un mot dans ton discours. Tu as dit « si on nous ». Mais en vrai, des fois, « si on se ».
Tu as raison, c'est vrai.
Parce que faut faire très attention aux mots qu'on se tient à nous-mêmes, aux discours qu'on se tient à nous-mêmes. Et moi, quand j'interview mes clientes et mes clients, je suis toujours estomaquée par la violence de leurs propos vis-à-vis d'eux-mêmes.
Ouais, ça c'est la deuxième fois que...
C'est-à-dire que les gens se parlent mal, quoi. Enfin, on se parle mal, les gens se jugent. Les gens se parlent, jamais de leur vie, ils parleraient comme ça à leur meilleur ami.
Tu vois, c'est intéressant encore, parce que ce que tu verbalises, ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, quand on disait, finalement, quand tu es confronté au regard de l'autre, quand tu viens consulter quelqu'un, et que tu viens consulter quelqu'un qui est bienveillant, en fait, cette personne-là, avec bienveillance, elle va t'exprimer ce que tu es en train d'exprimer, et elle va te faire réaliser, parce que les gens s'enregistrent pas, les gens se filment pas,
non,
pour ensuite se regarder. Donc quand tu peux avoir confiance en quelqu'un qui est bienveillant, et qui a le savoir-faire, les outils et la façon de te faire réaliser ça, et de te faire travailler pour évaporer ça et changer tes mots, c'est génial.
Bah écoute, merci.
Donc, allez consulter Lucille.
Ah, merci. Venez me voir.
Alors, Lucille, c'est quoi ton Insta?
Alors, mon Insta, il est tout simple. C'est Lucille, L-U-C-I-L-E. Donc, underscore, c'est-à-dire le tiré du bas, hein, comme les gens aiment le dire. Conseil en image. Donc, comme ça, c'est écrit conseil en image, tout attaché. Et vous me retrouverez facilement comme ça.
Bon, et on refera un podcast sur tout ce que tu nous as exprimé, qu'on n'a pas encore pu évoquer, qui est toute cette partie intelligence artificielle et réseaux sociaux.
Oui, comment se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Eh bien, avec grand plaisir, écoute, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Lucille.
Merci à toi.
J'espère que la découverte de Lucie Paille et de son métier vous aura enchanté. Et si vous avez aimé ce podcast, merci de le partager et merci d'aller mettre des petites étoiles pour m'y permettre d'avoir plus de visibilité sur les réseaux. À bientôt pour une nouvelle balade.